RCF.
Catherine Rollet, le 19e siècle est un siècle très important, y compris lorsqu'on parle de l'histoire de l'enfant, parce que là encore, tout un tas de choses se mettent en place, plus ou moins héritées de l'esprit de la Révolution française, notamment tout ce qui concerne le soin.
Oui, tout à fait. Un mot, par exemple, qui va entrer dans le vocabulaire français, c'est le mot de pédiatrie, du grec « enfant », donc « science de l'enfant »,« médecine de l'enfance ». Ce mot est introduit dans le dictionnaire littré, je pense, en 1872. Et cela est typique d'un investissement encore plus poussé de la médecine dans ses soins aux enfants. Là, on entre dans une sphère qui est plus scientifique.
Est-ce que ça, au 19e siècle, on voit un basculement en termes d'attachement et d'affection ?
En effet, les sentiments sont plus souvent exprimés dans la correspondance, dans les journaux, dans les biographies, etc. Ce temps de l'enfance, de la petite enfance aussi, figure dans les autobiographies du 19e siècle. Mais c'est aussi lié au fait que c'est un moment où les enfants deviennent plus rares dans la famille. C'est le début de la limitation des naissances, qui a commencé depuis le 18e siècle, mais qui se renforce
au
19e. Dès le 18e, dans les familles de l'aristocratie, et d'abord de la grande aristocratie, ensuite dans la bourgeoisie, et ensuite ça va essaimer dans la paysannerie et progressivement après dans la classe ouvrière, par exemple.
Donc l'enfant devenant plus rare, il est l'objet de plus de soins et d'attention.
Voilà, les parents ont plus de temps pour s'en occuper. On commence véritablement à se dire, là maintenant, il faut non seulement qu'il aille à l'école, ce qui va se faire à la fin du 19e siècle de façon systématique, mais il faut le préparer dès la petite enfance. Ainsi, la France connaît la création de deux institutions pendant la révolution industrielle, pendant les années 1920-30, l'institution des salles d'asile, la future école maternelle, qui accueille les enfants de 3 à 6 ans. C'est une innovation extrêmement intéressante, faite par des femmes éclairées de la bourgeoisie protestante notamment, avec un apprentissage sur des gradins, enfin tout ça. Et il y a toute une pédagogie qui se met en place pour les petits-enfants. Et puis il y a une deuxième innovation qui est la crèche. C'est plutôt cette fois-ci le milieu catholique. C'est un magistrat parisien qui voyait sur la colline de Chaillot des blanchisseuses qui ne savaient pas quoi faire de leurs enfants pendant la journée. Et alors il a eu l'idée de créer une crèche qui garderait les tout-petits dès la naissance jusqu'à 3 ans dans des conditions décentes. L'idée était aussi de moraliser en quelque sorte les mères, de ramener par exemple la mère qui avait eu un enfant hors mariage dans le bon chemin. Mais aussi l'idée, c'était que les parents puissent avoir suffisamment de quoi élever dignement leur famille et eux-mêmes s'instruire, avoir quelques moments de loisirs, etc.
Alors, on n'a pas parlé tout au long de ces siècles, Catherine Rollet, de l'enfant adultérin qui a été une question quand même très importante.
Oui. Il y a une ambivalence quand même. Tout enfant né hors mariage est considéré comme un bâtard, c'est le terme employé. Il n'a pas le même statut qu'un enfant né légitime, et d'ailleurs il n'a pas les mêmes droits. Le code Napoléon entérine cette différence. Les enfants illégitimes ne peuvent hériter de leur père. Cependant, tout enfant qui naît est aussi un enfant en soi dans la vision chrétienne. Par le baptême, il est réintégré. Même si on ne sonne pas les cloches de la même façon pour un enfant légitime que pour un enfant illégitime. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que durant le 19e, et l'acmé sera au début du 20e siècle, l'enfant illégitime est réintégré dans la société parce qu'il a une valeur, non seulement spirituelle, mais en termes de main-d'œuvre. Parce que c'est un enfant comme un autre sur le plan démographique.
Moi, sur ton chemin. Bye.
19e, c'est aussi le siècle où l'hygiène et les progrès médicaux font un grand bond en avant, dont les enfants bénéficient, bien sûr. Et à partir du 19e siècle, le taux de mortalité baisse de manière assez spectaculaire. Même si, évidemment, il faudra attendre le 20e siècle pour que les chiffres soient atteignent, disons, un seuil raisonnable.
Oui, oui, tout à fait. Par rapport à l'Antiquité, certainement, mais il reste encore élevé. 18 à 20% des enfants meurent avant un an. Mais on voit quand même la courbe, en effet, à la fin du 19e...
Elle s'amorce vers le bas.
Oui, elle diminue. Ce qui explique ce progrès, c'est d'une part la massification de la vaccination antigénérienne contre la variole. Au début du 19e, c'est un succès formidable. Par exemple, le roi de Rome, il est vacciné solennellement en 1812. Il y a une médaille qui sort à cette occasion-là. Enfin, bon. Et même s'il y a des résistances, la vaccination entre dans les mœurs. Sans être obligatoire. Elle ne sera obligatoire qu'en 1902. Mais alors aussi, les plus grands progrès, c'est après les premières découvertes Pasteur, c'est la lutte contre un certain nombre de microbes, notamment en ce qui concerne les femmes enceintes, la fièvre puerpérale, et donc le streptocoque. Et en ce qui concerne les enfants, ce sera progressivement la stérilisation du lait, et par conséquent, le combat contre les bactéries qui pullulent dans le lait, dans le biberon, etc. Ces innovations-là sont réalisées seulement à l'extrême fin du 19e, à partir des années 1890.
Donc assez tard.
Assez tard.
Le biberon, disiez-vous ?
Le biberon, le biberon a existé de tous les temps. Dès les premières sociétés, quand la mère ne pouvait pas allaiter, quand il n'y avait pas de nourrice, on était obligé de prendre des fioles, etc., d'inventer des biberons. Et l'imagination humaine, sur ce plan, a été absolument extraordinaire. Au début, sous l'Antiquité, on faisait des biberons en forme d'animal. On avait une petite vache, on avait un petit âne, on avait une petite chèvre.
En terre cuite, par exemple?
En terre cuite, surtout en terre cuite.
Donc le biberon en verre, bien sûr,
alors,
est assez
tardif. Alors le biberon en verre est assez tardif, il date du 18e. On a d'abord des verres soufflés, comme on faisait le verre à l'époque, et puis ensuite des verres moulés, ce qui a permis leur production industrielle. N'oublions pas qu'on est là dans l'ère de la révolution industrielle. Un des plus célèbres, c'est le fabricant Robert, qui a vraiment inondé le marché français de ses fioles. Comme ce biberon verre permettait de ne pas allaiter au sein, les nourrices notamment s'en sont servis pour pouvoir prendre plusieurs enfants à la fois. Et donc, les enfants en nourrice, progressivement, n'ont plus reçu le sein d'une nourrice, mais le biberon.
Donc, quand l'enfant ne bénéficiait pas du lait de la nourrice, on lui donnait quoi ? Du lait de vache ?
Oui.
Mais on ne savait pas stériliser avant le 19e.
Voilà. Dans ce cas, on mettait dans ces biberons le plus souvent du lait de vache, mais parfois, on mettait du lait d'ânesse ou de chèvre. Mais c'était des laits chers, parce que assez rare, et donc c'était surtout du lait de vache. Alors le problème de ces biberons et de cette alimentation-là, c'est qu'on n'avait aucune notion avant Pasteur de l'asepsie, de l'antisepsie, sauf dans des cas très spécifiques, par exemple à Édimbourg, dans le service du professeur Lister, un Écossais, qui avait compris de façon pragmatique, en fait, le danger de ces bactéries, et donc qui faisait régner une hygiène dans ces services très stricte. Alors, avant Pasteur, grosso modo, les biberons étaient des objets dangereux et les enfants mouraient de toxicose, etc., liées à la mauvaise qualité du lait non stérilisé et aux biberons non stérilisés aussi.
À partir de quand est-ce qu'on commence vraiment à laver le bébé ou le petit, avoir une hygiène quoi, oui, qui ressemble un peu plus à celle qu'on pratique aujourd'hui ?
C'est la même chose, je pense, c'est le même mouvement. On commence, on recommence à laver le bébé de façon systématique à la fin du 19e. Là, on sort de ces siècles de pudeur, de pudemonderie, on peut dire aussi, même les adultes se lavaient habillés.
Donc, la même chose pour les bébés.
Donc, c'est la même chose pour les bébés. Et on voit des scènes, fin du 19e, des scènes assez touchantes de bain avec la mère, éventuellement une servante ou une nourrice qui est là. L'hygiène, oui, c'est ça, c'est l'époque pastorienne, est accompagnée par des soins plus attentifs au corps du bébé. Alors, à ce moment-là, on a donc limité la mortalité des mères, la fièvre puerpérale, et on commence à s'intéresser de plus en plus au corps des enfants. On a des traités qui vont paraître sur le nourrisson, par exemple, en 1900. C'est le titre d'un livre, c'est absolument extraordinaire de lire ce livre, par un obstétricien, un pédiatre qui s'appelle Pierre Budin. Et ces médecins se disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a la diphtérie. Ça, le sérum antidiphtérique va être très, très important et radical pour éradiquer cette maladie épouvantable. Mais sinon, il n'y a pas de médicament. Les médecins n'ont rien sous la main. Si, l'aspirine, l'acétyl salicylique. Sinon, il n'y a pas de médicament. On est loin encore de l'ère des antibiotiques et des sulfamides. Eh bien, ils vont se dire, on va faire de la prévention. C'est ça, la grande innovation, c'est la prévention.
Alors, prévenir quoi?
Prévenir les maladies, par l'hygiène. Et par exemple, ce budin dont je parlais il y a un instant va créer une consultation nourrisson dans son hôpital en disant au maire qu'il a aidé à accoucher, revenez me voir toutes les semaines après la naissance ou même deux fois par semaine si vous sentez que votre enfant ne va pas bien, revenez me voir à l'hôpital, il y a une consultation, je vous donnerai les conseils, tout ça. Donc les mères viennent, le médecin examine l'enfant, pèse, mesure, fait la courbe de poids, prescrit l'alimentation. Si la mère n'a pas assez de lait, il prescrit des doses de lait stérilisé dans des tout petits biberons en complément. Et les mères viennent tous les matins à l'hôpital chercher leurs 10 ou 12 petits biberons pour la journée. Et surtout, il leur dit, si un biberon a été commencé et pas terminé, vous jetez le reste. Il n'y a pas de frigidaire à l'époque. Donc des conseils sur la croissance des enfants, sur l'alimentation. À mon avis, c'est ça qui a fait que, enfin, la mortalité infantile est entrée dans une phase décroissante. Vraiment, alors là, décroissante.
Merci beaucoup et on se retrouve demain pour finir.
Merci.
À demain, Catherine Rollet.